Bonjour à tous et bienvenue sur News FM, c'est l'heure de l'écho des saules. L'émission entièrement réalisée par les élèves du Collège Les Saules de Hébins dans le cadre d'un atelier en partenariat avec News FM. Pour cette troisième édition, pas de magazine, mais une émission spéciale débat avec six sujets sur lesquels on va débattre avec des camps qui vont s'affronter. Et pour ce faire, j'ai avec moi Théo, Laurine, Léo, Erwan, Lilouen, Lilou, Coralie, moi-même, Capucine, Gabin, Elio et Evan. Salut tout le monde!
Salut.
Parmi ces six débats, il va y avoir des sujets comme les IA, la fast fashion, l'astrologie, le sport ou les personnes trans dans le sport. On va tout d'abord commencer avec la domestication des animaux. Est-ce que d'après vous, la domestication des animaux sauvages contribue-t-elle à leur préservation ou à leur extinction ? Je sais qu'on peut penser que la domestication c'est mauvais pour les animaux sauvages ou alors que ça peut les aider. Est-ce que vous avez un avis, un argument, des choses à dire ?
Pour moi, la définition de domestication, c'est arracher un animal à son milieu naturel pour le ramener dans une maison, un appartement ou quelque chose comme ça, pour vivre avec lui. Des fois, il est content, des fois, il n'est pas content. Ça dépend des cas.
Et tu penses que c'est une bonne chose ou pas ?
Pour moi, ça contribue plutôt à leur extinction. Déjà, on a vu souvent des cas d'animaux qui sont en dépression parce qu'ils sont enfermés dans des espaces trop petits, mal éclairés ou alors qu'ils sont simplement mal nourris, maltraités. C'est assez rare, mais c'est quand même le cas. Et il y a certains animaux qui ne sont pas faits pour vivre dans des maisons.
Pour moi, c'est aussi pour l'extinction, car comme elle l'a dit, il y a beaucoup d'animaux qui tombent en dépression à cause de ce genre de pratiques. Et on a comme exemple, je ne me souviens plus du nom du zoo exactement, mais il y a des zoos où on voit justement des animaux qui tournent en rond dans leur cage parce qu'ils n'ont pas l'espace qu'ils ont besoin. Et puis, dans une maison, il n'y a pas l'espace, mais il n'y a pas aussi
la nature,
la bonne température, il n'y a pas certains critères dont les animaux ont besoin.
Alors, je reviens sur ce qu'a dit Lilouen. Moi, je suis allée au zoo de Vincennes et il y avait vraiment des lynx où on voyait le chemin qui était tracé et c'était vraiment un rond. Ils ne pouvaient pas aller autre part. Ils faisaient que tourner en rond.
Moi, je suis neutre sur ce sujet-là. Mais du coup, vous parlez que ce serait pour l'extinction. Mais quand un animal est domestiqué et qu'on lui donne les bonnes caractéristiques, est-ce qu'il ne serait pas plutôt sauvé dans un certain cas ? Enfin, je sais qu'il y en a qui sont dans ce camp-là. Et je me demandais du coup si vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, la domestication, elle protégerait les espèces plutôt ?
Pour moi, tout d'abord, parce que les animaux, normalement, pour la plupart des cas, leur maître leur donne à manger. Ils ont un toit. Normalement, il n'y a pas de pluie dans une maison, etc. Donc, ils sont normalement dans des bonnes conditions. Ils ont une litière. Ils ont normalement de quoi dormir. Ils ont tout ce qu'il leur faut normalement pour vivre dans de bonnes conditions.
Et puis pareil, la pluie en fait, il y en a qui en ont besoin. Enfin, justement dans la nature, enfin, qu'est-ce que ça change qu'ils aient pas de pluie en intérieur ? Justement, ça va peut-être être négatif pour eux.
Si un chat a une chatière chez lui, il peut sortir après à volonté.
Oui, mais un chat, c'est pas un animal
oui,
sauvage.
C'est ça, qu'on a fait des croisements.
Un chat, par exemple, c'est un animal qui a été domestiqué il y a longtemps. Un animal sauvage comme, par exemple, un tigre, tu vas pas le domestiquer en deux jours.
Oui, sauf qu'en même temps, si les chats ils ont été domestiqués, c'est bien qu'à un moment, ils étaient sauvages. Et s'ils sont toujours là, ça veut dire que ça continue à leur préservation.
Oui, mais ça a été domestiqué il y a plus longtemps. Et puis, c'est pas non plus... on peut pas comparer un chat à un tigre.
Parce en fait, c'est qu'on a fait des croisements et du coup, c'est devenu d'autres espèces.
Oui, et d'ailleurs, si jamais tu récupères un bébé tigre, que tu l'éduques, que tu entreprends un autre, que tu l'éduques aussi, qu'il y a de la reproduction encore et encore, au bout d'une certaine année, ils seront comme des chats, non ? Enfin, je dis ça.
Ouais, mais ça va plus être la même espèce, du coup, ça va plus être un tigre.
Et ça peut impacter les écosystèmes, parce qu'il y aura plus de prédateurs pour certains
domestiqués. Hein.
Il y a une différence entre chat sauvage et chat domestique. Parce qu'il y a toujours des chats sauvages, mais il y a aussi des chats domestiques. Mais on ne peut pas dire qu'il va avoir par exemple, des tigres domestiques et des tigres sauvages. Ce n'est pas logique. Parce que si on a des tigres, si on commence à domestiquer des animaux sauvages, ça peut impacter les écosystèmes. Parce qu'il peut y avoir une augmentation de, par exemple, d'animaux herbivores qui étaient chassés par ces animaux qui ont été domestiqués, et ça peut complètement dérégler des écosystèmes.
Alors après, ça peut également sauver des espèces. On n'est pas obligé de faire une domestication complète. Par exemple, il y a déjà plusieurs espèces qui ne vivent que en captivité, c'est-à-dire que dans la nature sauvage, ça n'existe plus, comme le cerf du père David ou le lion de l'Atlas qui ne vivent que en captivité. Et après, dans ce cas-là, on peut réaménager leur écosystème, réaménager leur lieu de vie et les réintroduire comme le cheval de Perwalski ou le taramin lion doré, qui sont des animaux qui ont été élevés en captivité puis réintroduits dans leur écosystème qui avait été détruit. et donc la captivité peut les sauver, peut les préserver.
Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, adopter un tigre pour en faire un truc que tu vas montrer, que tu vas balader dans la rue, que tu vas montrer à tout le monde et que tu vas juste... C'est pas pour le protéger, c'est juste pour se vanter ou pour, oui, pour le transformer en une machine qui va te rendre populaire. C'est pas, ça s'appelle pas de la domestication, oui, c'est pas pour l'aider.
Là, le problème, c'est pas la domestication. Là, le problème, c'est le moral de cette personne qui fait ça. On peut pas tout généraliser. Il y aura forcément des personnes qui domestiqueront les animaux de mauvaise manière. Il y a des domestications qui sont bonnes, qui aident, et il y a des domestications qui sont là, effectivement, juste pour... la parade, comme certains zoos, effectivement.
Après, la domestication et la captivité peuvent aussi entraîner l'appauvrissement des réflexes. On a déjà vu des cas de panthères qui étaient nourris à la main ou qui étaient aidés à manger. Et quand on les a lâchés, ils étaient incapables de se débrouiller seuls et ils devaient retourner dans les zoos pour être de nouveau habitués à la vie sauvage.
Et il y a aussi une question de budget. Nourrir un chat et laver un chat, ce ne sera pas le même que de nourrir et laver un lion, par exemple.
Oui, sauf qu'après, si les animaux qui se font réintroduire en liberté, ceux qui reviennent, parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller, c'est quand même le mauvais travail des personnes qui les ont lâchés. Donc, au bout d'un moment, ce n'est plus le problème de l'animal. Lui, il a été éduqué d'une certaine manière.
Du coup, Erwan, toi qui es neutre, un dernier avis sur tout ce que tu viens d'entendre ?
Moi, par de tout ce que je viens d'entendre, honnêtement, je vais dire que je pense que la domestication d'un animal, ça peut justement sauver des espèces plutôt que d'en éteindre. Car honnêtement, du côté de l'extinction, j'ai trouvé que vous n'aviez pas forcément de très bons arguments. Tandis que du côté de la domestication, pendant, comme Capucine l'a dit, il y a des espèces qui ont été mises en domestication afin de sauver leur écosystème. Donc pour l'instant, moi, en tant que neutre, je trouve que c'était mieux c'est mieux si on domestique certaines espèces plutôt que... tout en restant quand même... dans une certaine égalité.
Merci beaucoup, Erwan. Et Laurine, toi aussi qui étais neutre, est-ce que tu as un avis maintenant ou...
Oui, je trouve que les animaux sont très gentils avec nous.
Est-ce que tu penses qu'un animal qui vit dans la jungle ou la savane, il va vivre bien dans la ville ?
Non.
Merci, Laurine. Malheureusement, il n'y a pas que les animaux qui sont en danger. La planète entière est menacée par nous, les hommes. Et une de nos créations est en train de prendre de l'ampleur, les IA. Mais représente-t-elle un progrès ou un danger pour la planète ? Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une IA ?
Oui.
Oui, à peu près.
C'est une machine qui effectue des tâches qui sont souvent associées à l'être humain, comme raisonner ou résoudre des problèmes. Donc, dans ce débat, il y a certaines personnes qui pensent que les IA, c'est le progrès, comme Théo, Léo et Erwan.
Alors tout d'abord, l'IA pour moi ça constitue un immense progrès parce que déjà l'IA ça a des capacités sur certaines choses qui sont largement meilleures que celles de l'homme. Par exemple la rapidité de calcul, la mémoire qui est beaucoup plus importante chez les IA, elles ont une mémoire infinie à peu près. Elles sont beaucoup plus précises dans tout ce qu'on peut leur demander. Elles ont une vitesse de... recherche, je dirais, qui est plus rapide que la nôtre. Et tout ça fait que pour une tâche qu'elles peuvent réaliser, elles sont plus efficaces que nous la plupart du temps. Et elles peuvent donc, dans plein de métiers, nous aider à aller plus vite. Même des fois dans la recherche, en médecine, pour des vaccins, etc. Elles nous permettent d'aller plus vite dans toutes nos recherches pour nous faire gagner du temps. Un temps qui peut être précieux.
Je peux comprendre que toutes ces qualités peuvent inquiéter, mais... au jour d'aujourd'hui, l'IA, c'est juste un outil.
Ça ne peut pas remplacer l'homme, effectivement.
Après, c'est quand même hyper dangereux pour la planète. C'est hyper polluant. Juste une seule question à ChatGPT, c'est une heure de LED d'ampoule. Et il y a eu plein de problèmes avec les IA. Vous avez certainement entendu parler de Anne et de Brad Pitt, elle s'est fait arnaquer, elle a perdu beaucoup d'argent. Et ça, c'est grâce à l'IA qui permet de générer des images, qui permet de générer des voix, des attitudes. Et c'est assez dangereux quand même.
Mais là, c'est l'usage qu'on en fait, c'est pas...
Exactement. Puis une intelligence artificielle, ça reste une intelligence. Les humains aussi peuvent faire ça. Du moment que t'es intelligent, tu peux vouloir arnaquer des gens.
Mais ça reste quand même très polluant.
En parlant du cas de Anne, oui, c'est désastreux ce qui lui est arrivé. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on a quand même aussi les moyens de voir que les images sont générées par l'IA. Et je pense que l'IA peut être très utile à condition qu'elle soit quand même surveillée par l'humain et qu'on n'en fasse pas un mauvais usage, effectivement. Je rajouterais aussi que concernant la pollution, alors effectivement, oui, c'est désastreux niveau pollution, mais on peut toujours trouver des moyens de les rendre moins polluants. Par exemple, on a eu la voiture très polluante, et pourtant aujourd'hui, on trouve des moyens pour rendre la voiture moins polluante. Et je pense qu'on pourrait faire la même chose avec l'IA, il suffirait juste un peu de travail, donc le problème est réglé.
Après, au-delà de la pollution, écologiquement parlant, c'est pas top parce qu'on utilise quand même des milliers de litres d'eau par jour, rien que pour nettoyer les serveurs. Donc c'est pas... Et pour refroidir les machines et pour... Donc même sans parler pollution, écologiquement parlant, c'est pas top.
Je sais plus si c'est Léo ou Théo qui avait dit ça, qu'une IA ne peut pas remplacer un humain. Par exemple, sur les emplois du temps, c'est pas que des numéros et des nombres d'heures. C'est des humains qui sont derrière tout ça. Et si on laisse une IA faire ça, elle, tout ce qu'elle va voir, c'est juste un nombre d'heures, des prénoms, et elle va tout faire pour que ce soit légal, malgré que des conditions de travail peuvent être défavorables.
Et pour moi, c'est aussi un danger culturellement parce qu'on a eu beaucoup de cas où une IA a pris la voix des doubleurs sans leur accord. Et en sachant que, pour moi, le doublage n'est pas quelque chose qu'une IA peut faire parce qu'elle n'a pas d'émotion. Déjà, il y a quelques émotions qui sont difficiles pour l'humain lui-même de le faire. Alors une IA qui ne ressent pas ses émotions, c'est encore plus difficile. Et c'est pareil pour l'écriture. Il y a beaucoup d'écrits qui n'ont pas assez d'émotions parce que c'est fait par l'IA. Il y a une IA qui a été créée justement où tu mets un texte et tu peux savoir à combien de pourcents ça a été fait par l'IA. Et c'est justement grâce à...
À voir à quel point c'est...
À quel point c'est humain ou pas en fonction des émotions ou des erreurs qui sont faites.
Oui, mais comme vous le dites, l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Justement, le but de l'IA, c'est d'être un outil à l'être humain. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de Lilouane de doublage. Oui, un doublage par IA est absolument catastrophique. C'est pour ça que, justement, on va éviter justement de se servir de l'IA entièrement, mais juste en servir en tant qu'outil de travail afin d'aider, simplement.
Bah, du coup, vous avez tous eu des arguments hyper intéressants. Et ici, avec nous, on a trois personnes neutres. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?
Moi, je pense que je reste un peu neutre parce qu'en même temps, ça peut être un progrès, mais en même temps, ça peut être un danger pour certains métiers parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des métiers qui sont en danger à cause de l'IA qui peut les remplacer. Par exemple, les métiers de traducteurs, ils peuvent être remplacés par les IA.
C'est vrai que tout le monde a eu des très bons arguments. Après, il y a une personne neutre qui a changé d'avis, donc peut-être que ceux qui pensent danger ont gagné. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui est un problème pour nous, comme la fast fashion, qui fait également polémique. Peut-elle être éthique ou représente-t-elle, elle aussi, un danger ?
Pour moi, ça ne peut pas être éthique, tout simplement parce que ça existe déjà depuis un moment et que ça n'a jamais été éthique. Je pense que pour que ce soit éthique, dans tous les cas, il faudrait faire des changements. Et à partir du moment où il y a un changement, on ne parle plus de fast fashion si on change trop de choses.
Moi, je pense que ça ne peut pas être éthique, parce que tout simplement, un vêtement sur trois n'est en moyenne pas porté dans une armoire. Un simple jean que l'on peut porter régulièrement, il fait 65 000 km, soit deux fois le tour de la Terre, simplement pour être fabriqué. Donc ça, c'est très polluant et je pense pas que ça peut être éthique. Et aussi, il y a des pays où le travail des enfants de métiers dangereux est légal. Donc en fait, si un vêtement provient d'un certain pays, on contribue à cette loi avec des enfants qui sont pas protégés pendant qu'ils travaillent, quoi.
Et si je peux me permettre juste une toute petite activité ludique, si vous pouvez regarder les étiquettes de vos habits, vous verrez que la plupart du temps c'est made in China, made in Pakistan, made in Bangladesh, on a vu aussi, et plein de pays comme ça qui ne sont que très rarement la France et qui sont souvent très loin de la France, ce qui prouve, je trouve, que c'est polluant et que c'est pas éthique.
Après, moi je trouve qu'il y a quand même des bons points à la fast fashion. Par exemple, d'après un article de Homer.shop, un t-shirt basique coûterait 10 euros en fast fashion et 40 euros normalement écologique qui a été travaillé, qui a été fait main, qui a été fait dans l'endroit où on l'achète. Et c'est 4 fois plus cher. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un t-shirt 4 fois plus cher. 40 euros, c'est beaucoup pour certaines personnes.
Mais après, le prix, ça reflète aussi peut-être la qualité du vêtement. Parce que si c'est cher, ça veut dire que c'est de bonne qualité. Ça dépend, mais...
C'est justement ce qui est bien avec la fast fashion, c'est que pour un t-shirt de 10 euros, tu vas avoir un t-shirt qui va être quand même de bonne qualité, qui va pas se détruire...
Oui, mais ce qui fait partie de la fast fashion, donc rapide, c'est que tu vas changer de vêtements souvent, donc même s'ils sont moins chers, t'en achètes plus en quantité, donc ça revient à peu près au même, hein, je pense.
Il n'y a pas que les personnes qui achètent qui sont dépendantes de cette fast fashion, il y a les personnes qui travaillent dedans, qu'il y a énormément de monde qui travaille dans la fast fashion, 75 millions
de personnes autour du monde travaillant la fast fashion.
Sauf que oui mais non, parce que ces gens, on va dire que la fast fashion, c'est un peu leur dernière solution. C'est-à-dire que c'est soit travailler beaucoup pour très peu, soit ne pas réussir à trouver de travail et ne pas pouvoir se nourrir. Donc ok, leurs conditions sont horribles, mais ça les aide un peu. Et encore une fois, alors écologiquement, oui, c'est un peu immoral car ça pollue beaucoup, mais à côté de ça, il faut se dire que plusieurs familles ne peuvent rien se permettre d'autre que de la fast fashion. Et donc, du coup, ça leur permet de pouvoir s'habiller avec des vêtements un peu stylés et pas tout le monde va acheter 100 vêtements par semaine. Ou des familles, c'est juste qu'ils ne peuvent pas se permettre et vont du coup acheter uniquement de la fast fashion afin de faire plaisir à leurs enfants, leurs neveux ou leurs cousins, etc., etc.
Ok, et bien là, on a quelques personnes neutres autour de cette table. Est-ce que vous êtes positionnée ?
Moi, personnellement, j'ai réussi à me positionner. Donc, je suis pour que ce ne soit pas éthique. Y a beaucoup de choses, par exemple, du coup, comme ils l'ont dit, sur la surconsommation que ça va être. Et je ne suis pas pour.
Je pense que ça ne peut pas être éthique. Ils ont eu de trop bons arguments pour que je puisse dire le contraire.
Moi, je reste neutre, car oui, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour certaines personnes qui y travaillent. Mais comme ils ont dit, il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer plus que ça. Et donc, bah, c'est leur dernière solution. Je pense qu'ils aimeraient ne pas être dépendants de la fast fashion, mais c'est le dernier recours. Donc, et si ça changeait, ça ne serait plus vraiment fast fashion. Donc.
Du coup, je pense que l'équipe qui a gagné est celle qui pensait que la fast fashion n'est pas éthique. Nous avons beaucoup parlé de la planète et des gens qui habitent dedans. Mais éloignons-nous un peu. Allons voir vers les étoiles, qui possèdent également leur propre science, l'astrologie. À votre avis, l'astrologie est-elle une science fiable ou un business basé sur la manipulation ?
Moi, je pense que c'est une science fiable, car le principal argument des personnes qui disent que ce n'en est pas une, font beaucoup de généralités, par exemple, ça se trompe une fois, eh bien, on n'y croit plus, mais par exemple, la météo, un jour, ils vous disent qu'il va faire soleil et il pleut, c'est pas pour autant que vous arrêtez de regarder la météo et que vous n'y croyez plus. Et la météo, ça repose aussi sur de la prévision en fonction des schémas qui se sont passés avant, comme l'astrologie, où ils regardent les généralités des personnes nées à telle date et ils essayent de prévoir qu'est-ce qui pourrait se passer pour eux.
Alors moi, je suis neutre, mais par rapport à la météo, ils ont quand même des satellites, ils ont plus d'arguments pour pouvoir la donner. Enfin, la météo, il y a quand même plus de... Ils observent. Oui, de preuves, voilà, merci Léo.
Après, le principe de l'astrologie, c'est d'être basé sur les étoiles, la Lune, et il y a des sciences qui sont basées là-dessus. Et c'est fait avec des télescopes qui sont des instruments de mesure, c'est de la science, c'est scientifique, c'est une technologie, voilà.
Si c'était vraiment une science fiable, alors dis-moi pourquoi on peut voir un 13e signe, le serpentaire. Vu qu'il y a un 13e signe, pourquoi ce serait une science fiable si ça peut tout être décalé ? Par exemple, Erwan qui est Gémeaux serait Taureau, Gabin qui est Scorpion serait Balance, et toi tu serais comme moi une Vierge. Mais du coup, c'est d'ailleurs aussi ce qui vient à mon prochain point, on est totalement opposés. Donc pourquoi est-ce que ça serait une science fiable si ça peut être changé d'un coup comme ça et si toi et moi, qui sommes des personnes diamétralement opposées sur beaucoup de points, pouvons être du même signe ?
Après, souvent, je vais prendre un exemple. Ne venez pas me parler du loup-garou, ça n'a rien à voir. Mais la lune influence les marées et certains comportements animaliers nocturnes. Alors pourquoi est-ce que ça influencerait pas le comportement humain ?
Et puis, pour reprendre l'argument de Lil Wayne et du 13e signe, il y a plusieurs sciences où les avis sont complètement opposés. Et pour une même personne, on pourrait avoir des avis complètement différents, comme la psychologie. Et mon très cher camarade Gabin a beaucoup de choses à dire sur la psychologie.
Bah, la psychologie, ça repose aussi beaucoup, ça repose aussi sur de l'interprétation. Car une personne qui souffre d'un trouble ne ressemblera pas exactement et ne se comportera pas exactement pareil que quelqu'un qui a le même trouble. Et pareil, en fonction du professionnel que vous allez voir, vous n'aurez peut-être pas le même diagnostic, alors que c'est la même science. Alors pourquoi est-ce que ça serait une science fiable et pas l'astrologie ?
Après, il faut se rendre compte que la psychiatrie aussi, on lui retire aussi souvent son titre de science fiable, avec par exemple des gens qui vont être antipsychiatriques, même si aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Mais un autre argument contre l'astrologie est sur le fait que c'est une pure arnaque et qu'on a pu observer au cours des années l'effet Bernam. Et en quoi consiste cet effet ? À manipuler les esprits. On va donc dire des choses courantes en faisant croire que c'est des choses très précises. Encore un autre point de l'arnaque de l'astrologie est que tu vas donc payer ton horoscope. Tu vas donc payer ta voyante, ta liseuse de bonne aventure ou peu n'importe, afin qu'elle te dise des nouvelles. Mais Comparé à ce que l'on peut voir dans les films, il est rare, mais absolument même impossible, de recevoir des mauvaises nouvelles. Ça va toujours être de très bonnes nouvelles, comme « Oui, je pense que le bonheur vous attend, mais vous ne savez pas encore comment l'atteindre. » C'est très vaste, ça a l'air très précis, et c'est une bonne nouvelle, car peu de gens vont vouloir aller payer pour entendre de très mauvaises nouvelles.
En 1948, le psychologue Bertram Forer réalisa une expérience. Il affirma à 5 étudiants de leur donner, qu'il leur donnait une version personnalisée d'un test de personnalité en rapport avec l'astrologie, alors qu'ils étaient en réalité identiques. Il leur a demandé s'ils se reconnaissaient sur une échelle de 0 à 5, et la moyenne fut de 4,26. Donc tous les étudiants étaient satisfaits alors qu'ils n'étaient pas du même signe et qu'ils avaient eu le même test. D'après Forer, je cite, « L'être humain est capable de s'attribuer n'importe quelle caractéristique un peu floue tant qu'elle se montre empathique envers ses faiblesses et qu'elle vante ses qualités. »
Waouh, très très bon argument. Qu'est-ce que vous avez à répondre, l'autre équipe ? Il faut attaquer.
Déjà, dans le discours d'Erwan, où il a parlé de l'effet Barnum, il y a eu plusieurs erreurs. Par exemple, il a parlé des médiums, des voyantes. Sauf que ça, ce n'est pas l'astrologie, c'est un autre domaine de l'occultisme. Tu as l'astrologie, l'étude des planètes, des saisons. Et après, dans l'occultisme, il y a beaucoup d'autres choses, comme l'hypnose, tirer les cartes, le pendule. Et aussi, pour répondre à l'effet Barnum, l'astrologie, ça repose sur l'idée que le moment de notre naissance, il peut influencer notre vie et notre santé. Et des études, par exemple, de la Columbia University ou du British Medical Journal, montrent que les personnes nées en mars ont un risque plus élevé de certains problèmes de santé, comme des troubles cardiaques. Ça pourrait être dû à des facteurs comme la lumière ou la température pendant la grossesse, ce qui rejoint l'idée astrologique que les saisons affectent notre bien-être. L'astrologie, en tenant compte des cycles des planètes et des saisons, anticipe des effets que la science actuelle commence à confirmer, prouvant que la date de naissance peut avoir un vrai impact sur votre vie.
Alors ça aussi c'était un très bon argument. Ah, en attendant, vous avez quelque chose à dire, à répondre ?
Oui, moi j'ai quelque chose à répondre à cet argument. Laissez-moi juste 5 minutes histoire de m'en rappeler car on vient de subir la sonnerie et je vous le dis. Donc laissez-moi genre 3 secondes, vous comptez jusqu'à 15 et à 15 je m'en rappelle.
1, 2, 3.
Non mais dans vos têtes s'il vous plaît.
J'allais compter. Vas-y, bah pendant ce temps on écoute Léo.
Pour...
Non, on écoute Léo.
Pour les horoscopes, certains s'arrêtent.
Pétition pour qu'il n'y ait plus de sonnerie.
Oui, vraiment.
Pour les horoscopes, certains s'arrêtent le 22, d'autres le 23. Je suis née le 23 août. Du coup, en théorie, j'ai 2 signes astrologiques.
Pour revenir sur le serpentaire, le soi-disant 13e signe, eh bien, il n'a pas été reconnu officiellement par les plus grandes fondations d'astrologie qui sont sur quoi tout le monde se base. C'était surtout une rumeur des réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram. Et après, ça a pris de l'ampleur. C'est comme le pays qui avait été créé par la France pour faire une blague aux Américains.
Le Luxembourg.
Et bien, ça a pris beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées autour, mais pourtant, il n'existe pas ce pays.
Certes, mais pourtant, plusieurs astronomes l'utilisent, faussant donc les résultats de certaines personnes qui vont voir un astronome pour savoir leur...
Il y aura toujours des scientifiques qui auront un avis complètement différent de la société, et ça, on ne peut pas l'empêcher.
Oui, et d'ailleurs, pour répondre à l'argument tout à l'heure de Gabin, qu'il y aurait du coup des influences par la lumière, le soleil, sur les grossesses, qui ferait que les enfants nés durant les périodes d'un signe astrologique ou d'un autre auraient des personnalités différentes, j'ai une réponse super simple. On dit aussi qu'une femme qui mangerait par exemple telle chose ou telle chose durant sa grossesse aurait plus de chances d'avoir une fille ou un garçon. Apparemment, ça aurait été prouvé scientifiquement, ça aussi. Pourtant, j'en ai vu des femmes enceintes manger des choses exprès pour avoir un fils, hein, ou une fille. Hein. Ouais, alors ni l'une ni l'autre n'a eu son enfant dans ce genre-là.
Mais quel rapport avec l'astrologie ?
C'est que l'astrologie serait donc une science selon vous, et que pourtant...
Mais c'est pas du tout la même chose. Les choses qui sont basées sur les femmes enceintes qui mangent des choses pour avoir un certain sexe, bah, ça n'a aucun rapport avec l'astrologie.
En fait, oui, justement, mais... c'est pour ça. C'est parce qu'il disait que la lune, ça pouvait avoir un truc.
Oui, mais du coup, c'est des influences complètement différentes. Là, on parle d'une influence de la nourriture et l'astrologie, c'est une influence des planètes, des astres, des étoiles. C'est complètement opposé.
Oui, mais Gabin nous a parlé d'une influence de la lumière.
Oui, mais, par exemple...
C'est pas les astres à la lumière.
Quelles sont tes études qui prouvent qu'une femme mangeant tel aliment ou tel aliment, est-ce qu'elles sont vraiment fiables? Parce que la Columbia University, c'est quand même une université très réputée des États-Unis, et le British Medical Journal, c'est un des journaux les plus gros en termes de médecine du Royaume-Uni.
C'est un débat magnifique.
Un débat politique.
C'est un débat magnifique.
Qu'est-ce que tu vas faire contre ça?
C'est un débat
magnifique. Qu'est-ce que tu vas faire contre cette avis?
Eh ben, je donne mon bâton de parole à Lil Wayne.
Mais tout le monde.
Nous allons clôturer ce débat sur cet argument de gamin qui a été très très bien posé. Est-ce que les quelques personnes neutres qui sont autour de cette table ont changé d'avis?
Alors moi, j'adorais les arguments des deux côtés, c'était vraiment très fort. Je trouve que les arguments du côté science fiable sont vraiment extrêmement forts. Moi, j'avais quand même déjà un petit avis avant et je reste du côté que c'est une manipulation parce que j'avais déjà un peu mes avis et ils ont quand même aussi très bien débattu.
Ce qui a bien été dit, c'est que les arguments du côté science fiable étaient très 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 bien développés. Donc je dis niveau débat, c'est science fiable qui gagne. Mais il n'y a pas que sur l'astrologie où on peut se poser des questions sur ce qu'elle représente et signifie. Par exemple, le sport n'a pas la même définition pour tous, entre une activité demandant un effort ou simplement un jeu avec des règles. Pour vous, le sport est-il forcément physique ?
Moi, je pense que c'est pas forcément physique parce que tout simplement, dans l'étymologie du mot sport, ça vient de des sports qui veut dire amusement. Ou le divertissement associé au plaisir physique du mental. Rien que dans l'étymologie du mot sport, on prouve que ce n'est pas forcément physique. Après, on parle d'une certaine forme de physique. Soit c'est du physique, techniquement on fait tout le temps du physique. Rien que parler, ça demande du physique. Donc en fait, ça dépend le degré de physique.
Pour moi, l'étymologie, c'est pas forcément un argument, parce qu'il y a plusieurs mots qui existent et qu'ils ont une étymologie un peu différente de ce qu'ils signifient.
Par exemple, il y a le mot travail du latin tripalium qui signifiait à la base un instrument de torture à trois pieux. Sauf que, est-ce que quand vous parlez de travail, vous parlez d'un instrument de torture à trois pieux ? Je ne pense pas. Je pense que vous parlez plutôt de l'activité professionnelle ou de l'effort. Donc, l'étymologie et le sens actuel ont une très grande différence.
Voilà.
Attendez, est-ce que je peux sortir le gros argument maintenant ?
Vas-y, sortir un argument.
Ah bon ? Vas-y. Ça a été officiellement dit que le sport n'était pas forcément physique.
Qui l'a dit ?
C'est l'INSEE qui a dit que le sport n'était pas forcément physique.
Ça a été dit officiellement, oui. Et je suis d'accord sur le fait que oui, le sport n'est pas forcément physique. Alors que pourtant, je suis dans l'autre catégorie. Mais revoyons quand même qu'il y a deux catégories de sport. Il y a la catégorie du sport, c'est-à-dire athlétisme, etc., tout ce que l'on connaît, ce qu'on va voir au JO, par exemple. Et il y a aussi l'e-sport. Et l'échec a été mis dans quelle catégorie ? Dans la catégorie de l'e-sport. Et ça aussi, c'est officiel. On cherche sur Internet, on verra que l'échec n'est pas un sport, mais qu'il est dans la catégorie de l'e-sport. L'e-sport, c'est quelle catégorie ? C'est la catégorie des jeux vidéo.
Alors, Erwan, désolé de te contredire, mais l'e-sport et les échecs, ils ont été reconnus comme un sport, parce qu'il y avait de la stratégie dedans.
Comme e-sport.
Comme le e-sport.
Et puis, personnellement, dans e-sport, moi, j'entends sport. Hein.
Oui.
Enfin, e-sport.
Électronique sport. La définition de e-sport, c'est électronique sport.
Oui, mais du coup, il y a quand même le mot sport derrière.
Pour répondre à... Bah, je sais plus quel de vous deux me l'a dit, mais...
Moi.
Pour répondre à Evan, voilà. Alors, je te cite directement le site www.europeechec.com. Le 18 décembre 2024, l'e-sport World Cup a annoncé s'ouvrir aux échecs.
Ah,
les échecs sont donc dans la catégorie de l'e-sport.
Mais l'e-sport a été considéré comme un sport.
C'est un sport,
cérébral.
C'est pas une activité physique. Hein.
Ah oui, mais...
Oui, mais c'est...
Ça voudrait dire que tous les jeux de société, ce serait du sport ? Est-ce que quand vous faites un double ou un uno, vous avez l'impression de faire du sport ? Vraiment ?
Bah...
C'est de la réflexion.
Il y a de la réflexion.
Il y a de la réflexion.
Et vous avez l'impression de faire du sport ? Vous pensez que là, à chaque fois que vous faites un double, vous êtes en train de faire du sport.
Les sports de stratégie, sont comme les échecs, ils ont été considérés comme un sport.
Donc, quand tu fais un double, tu fais du sport.
Pour moi, non, sport, mais parce que, attendez.
Un double, c'est pas un jeu de stratégie.
On fait pas de la stratégie, on joue juste.
Bah, dans n'importe quel jeu de stratégie, Colombe Catane. Est-ce que tu fais du sport quand tu fais Colombe Catane ?
En fait, ça, ils ont pas encore officialisé que c'était un sport, alors que les échecs, ils ont officialisé que c'était un sport.
Mais si on officialise que les échecs sont du sport, ça voudrait dire que tous les jeux de société de réflexion, ce serait du sport. Non. Et ça n'aurait pas trop de sens. Bah si,
bah, si, bah, bah non.
Quelle serait la différence entre les échecs et un autre jeu de réflexion? Pourquoi est-ce que les échecs seraient plus considérés comme du sport que n'importe quel autre jeu de réflexion?
Pour appuyer le point de Capucine, j'ai la définition du sport d'après le Oxford Dictionary qui dit « activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort ». Et quel est le deuxième mot? Physique.
On va prendre un exemple tout bête. Est-ce que tout le monde ici connaît les jeux de raquettes? Bon, moi, par exemple, ce matin, j'ai fait du badminton. Y en a qui font du tennis de table, bref. Et ben, on est d'accord que dans ces jeux-là, il faut se positionner avec stratégie, viser des endroits stratégiquement, anticiper les déplacements de l'ennemi. Tout ça, c'est de la stratégie.
Et à tout hasard, dans ces sports, tu ne serais pas en train de faire un réel effort physique et qui te coûte, tu dépenses des calories, transpires, tu risques de te faire mal. Dans tout sport, normalement, il y a un risque de blessure. Tu ne peux pas te blesser aux échecs, normalement.
Ou bah alors, si, tu peux te pointer sur la dame.
Voilà.
Tu peux t'étouffer avec un pion.
En restant logique, un sport, pour moi, on ne peut pas en faire à l'infini. À partir du moment où un moment t'es fatigué et tu dois arrêter parce que t'en peux plus, t'es mort, c'est un sport.
Je suis désolée, moi je vais pas faire des échecs pendant 24 heures.
Les échecs, c'est ça.
Tu dois faire tes besoins vitaux, manger, dormir, d'accord. Mais à part ça, les échecs, tu peux en faire.
C'est ennuyant, mais tu peux le faire.
Bah, du sport aussi en fait.
Mais Théo, réfléchir, c'est bien un effort.
Bah, du coup, un exercice de maths, c'est un effort?
Bah oui, peut-être. De l'intensité de ton effort.
Bah oui, mais réfléchir, ça devient un effort.
Mais là, ça n'est pas réellement
un effort cérébral.
C'est un effort cérébral.
Si vous voulez parler de calories brûlées, moi je peux vous en sortir des tas là-dessus.
Allez, vas-y.
Okay, attendez, j'ai un énorme pavé dessus. Okay.
Vas-y.
Ok, bah déjà, juste en moyenne, en une seule partie d'échec, tu dépenses 159 calories.
Et
donc, déjà,
ça peut durer l'infini, Coralie.
Et en juste 10 pompes, hein, 20 secondes, tu fais combien pour savoir?
Bah, je sais pas.
C'est un effort, mais c'est parce que faire des mouvements, c'est physique, mais ça veut dire que exister, c'est physique. Ça voudrait dire que quel mouvement qui dépense des calories serait physique et du sport. Ça voudrait dire que je respire, je fais du sport parce que je dépense quelques calories. Ça veut dire que, en plus, ton argument qui dit que bouger, ça fait des calories, ça voudrait dire que quand je joue au double et que je pose ma carte, bah, je dépense des calories, donc je fais du sport. Pourtant, tu m'as dit que double n'était pas un sport.
Là, la web radio, par exemple. Le club journal, la web radio, c'est une AS. Et la définition d'AS,
c'est un club.
Il y a tout le monde. Je suis désolée, il y a 99% des personnes dans ce collège qui disent que c'est une AS.
C'est un réflexe.
C'est pas parce que quelques personnes disent AS parce qu'ils ont l'habitude qu'un club soit des AS que ça va forcément être.
Bah, justement, c'est pas quelques personnes, c'est 99% des personnes du collège.
Vas-y, on va demander.
L'activité du midi, c'est AS pour eux.
On va demander.
Par exemple, la danse. Ça n'est pas reconnu comme un sport. Pourtant, on en fait au collège.
C'est un sport, la danse.
C'est physique, la danse.
Ah, tu disais pas ça il y a pas longtemps.
C'est plus physique que les échecs.
La danse n'est pas reconnue comme un sport.
Mais il y a trop de styles de danse, c'est pour ça.
Mais c'est un sport, la danse. Tu fais quoi?
Alors, je suis désolée, mais les échecs sont reconnus comme un sport et pas la danse. Hein.
Il y a des sports artistiques au JO. Hein. Il y a le skateboard qui sont notés sur leur figure et tout.
Il y a la danse. Il y a le break au JO.
Oui, voilà, il y a le break au JO. Oui,
donc il y a la danse aussi au JO, donc c'est un sport.
Mais il n'y a pas les échecs.
Certaines personnes ne considèrent pas la danse comme un sport.
Tout le monde, je vois bien que vous avez des avis très très tranché. Je crois même qu'il n'y a pas de personne neutre. On peut voir à tous les arguments qui ont été dits que vous étiez tous très impliqués et bah moi j'ai beaucoup apprécié ce débat, mais il va falloir enchaîner parce que il reste...
Qui a gagné du coup?
Ah, alors là je sais pas du tout parce que
on va laisser ça à nos listeners.
Je pense que ouais. Comme nous dit notre très chère Lilouen, nous allons laisser les auditeurs penser ce qu'ils veulent. Donc maintenant, nouveau sujet. Maintenant que nous savons plus sur le sport, parlons de ses pratiquants. Les hommes et les femmes, qui sont depuis toujours séparés lors des compétitions de haut niveau. Mais de nos jours, la question du genre est remise en question. On parle de plus en plus de la communauté LGBTQIA+, et de certains de ses membres, les personnes transgenres. Cela concerne les personnes ayant une identité de genre différente du genre assigné à la naissance. Une question se pose donc. Les personnes trans doivent-elles concourir dans les compétitions sportives de leur genre de transition ou pas ? Je précise, très important, qu'on ne remet pas en question les personnes transgenres. Elles sont légitimes. On se pose seulement la question de quelle catégorie elles devraient concourir. Et je rappelle que les LGBTphobies sont condamnées par la loi d'amendes très élevées et de plusieurs années de prison. Je précise également que ce sujet est assez difficile. La réponse, même les JO n'ont pas la réponse, car il n'y a rien encore qui a été décidé. Et nous sommes tous neutres, sauf Théo qui a un avis.
Alors pour moi, mon avis, il est basé sur un fait assez simple. C'est que pour moi déjà, ils doivent concourir dans leur compétition, pour la plupart des sports, d'origine. Tout simplement par une question d'égalité. Quand même, il faut remettre les choses en contexte. Ça dépend des sports, même pour moi, ça dépend des sports. Il y a des sports qui nécessitent qu'ils soient dans leur catégorie d'origine. Tout ce qui est très très physique, même le culturisme, je ne sais pas si ça peut vraiment être considéré là-dedans, mais ça ne peut pas être ensemble parce que forcément, nos corps ne sont pas faits pareils, mais des sports comme... ou les écarts tout simplement au JO par exemple. Quand on regarde des sports, certains écarts, que ce soit en temps, en points ou n'importe quoi, il y a des sports qui ont vraiment des gros écarts et d'autres qui n'ont pas tant d'écarts et où là, ils peuvent concourir là où ils veulent.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Théo, ok. Mais d'un côté, après... Eux, ils ont fait ce choix. C'est, enfin, après, ça peut les blesser. Enfin,
ouais, faut pas les faire concourir dans leur nouvelle identité. C'est respecter leur genre, leur choix et leur. C'est une question de moralité. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. J'ai même quelques chiffres sur des différences de performance. Donc, par exemple, la meilleure performance aux 100 mètres par un homme, donc vous le connaissez, Usain Bolt, c'est 9,58 secondes. En 100 mètres, et chez les femmes, c'est 10,49 secondes. Donc il y a effectivement une différence de capacité. Et je sais, c'est difficile, j'ai pas d'avis non plus, je t'entends, je comprends ce que tu dis.
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Théo, c'est qu'en fait, même si tu changes de sexe, tu peux garder certaines... par exemple, les hommes ont plus de musculature que les femmes, génétiquement.
Forcément.
Donc c'est mieux que la personne reste dans la catégorie de naissance pour pas que ça affecte le score.
C'est pas neutre à la base.
Puis je pense
non,
que... Mais il a choisi son opinion. Ah.
Bah, comme vous avez, je comprends vos opinions, tout ça. Sauf que dans le sport, pour pouvoir concourir dans une certaine catégorie, même pour les personnes cisgenres, donc de leur genre assigné à la naissance, il y a des certains taux d'hormones nécessaires ou maximaux. Et il y a des études qui montrent que, par exemple, une femme transgenre, donc quelqu'un assigné homme à la naissance, mais qui est une femme, eh bien, sont moins performantes que les femmes cisgenres, donc les femmes de naissance. Et donc, bah, qu'est-ce que ça changerait, en fait, de les empêcher de faire ça, si c'est juste pour qu'ils se sentent mieux? Parce que... Et donc, du moment qu'ils n'auraient pas les taux d'hormones nécessaires, ils resteraient dans leur catégorie d'origine. Mais à partir du moment où ils auraient atteint le seuil, il faudrait les laisser concourir parce qu'ils sont même moins performants que les gens de départ.
Et aussi, en fonction de certains sports, il y en a qui sont plus physiques que d'autres, comme la boxe, la course à pied et d'autres sports comme ça. Mais des sports de précision comme le tir à l'arc, on s'en fiche un peu que tu sois un homme ou une femme. Ce qui compte, c'est où est-ce qu'elle atterrit la flèche. Donc, je verrais pas pourquoi on devrait séparer les deux catégories.
Mais ça dépend. Ouais, mais on parle surtout des sports de force, de baston.
Oui. Tu viens de parler de la boxe. Et bien, justement, il y a une femme qui s'appelle Iman Khelif, qui est algérienne et qui a participé à une compétition officielle de boxe. Elle a gagné et elle était très forte. Et ça a fait polémique, sa situation, parce qu'elle avait un taux de testostérone très très élevé par rapport à une femme. Et je rappelle que la testostérone, c'est une hormone créée principalement par les hommes pour la masse musculaire. Donc c'est la testostérone qui les rend musclés. Donc une femme possédant beaucoup de testostérone sera plus musclée techniquement qu'une femme normale.
Bah après ça c'est peut-être du dopage.
Non, ça a été prouvé scientifiquement. Enfin, ils ont cherché et tout, et en fait, son corps avait une anomalie qui fait qu'elle crée plus de testostérone. Et il y a deux cas comme ça. Il y a Duti Chand aussi, qui est une sprinteuse indienne qui a eu le même problème, qui faisait de la testostérone. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle a elle a les mêmes hormones qu'un homme, mais on la fait quand même concourir avec des femmes. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes?
Bah, pour moi, toujours sur une question d'égalité, si vraiment c'est le même niveau. Elle va avec les hommes. Si, en fait, pour moi, c'est il faut que tout le monde ait sa chance. C'est-à-dire si dans une catégorie, il y a quelqu'un qui, même sans faire tout à son maximum, etc., gagne tout le temps et qu'il n'y a plus de défis pour les autres, il y a des gens qui ne peuvent même plus gagner, c'est plus possible pour eux, ça perd toute logique, en fait. Et dans le sport, il y a énormément, énormément de règles et de choses qui sont créées pour que tout soit égal. Par exemple, dans les sports mécaniques, ça peut être à des demi-secondes près les temps et que c'est ultra important. Et en fait, là, on dirait, bah, c'est pas grave, il peut y avoir beaucoup d'écarts, c'est pas grave, mieux vaut le respecter une personne parce que c'est important, mais on délaisse le respect, entre guillemets, de toutes les autres dans la catégorie avec elle.
Je vois ce que tu veux dire. Donc, ce que tu dis, c'est changer de catégorie les personnes qui seraient trop fortes.
Exactement.
Sauf que, par exemple, la gymnastique, la catégorie homme et la catégorie femme, elle est différente.
Il y a des agrès différents.
Il y a des catégories différentes, c'est complètement, enfin c'est pas les mêmes, enfin c'est le même sport mais c'est pas la même chose. Et même ça, je comprends pas pourquoi est-ce que les hommes et les femmes auraient une catégorie d'un sport différent.
Faudrait dans des sports qui sont pas comme la boxe où faut mettre un homme et un homme ou une femme et une femme, enfin face à face et s'affronter. Je pense que on devrait faire par rapport au taux de
testostérone.
Et les classer dans différentes catégories, par exemple entre temps et temps de taux de testostérone et les classer comme ça.
Je pense pas que ce soit la solution, parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui, par exemple, a 50% de testostérone et qui se trouve dans la catégorie au-dessus, bah, elle serait la plus basse de sa catégorie et quelqu'un qui aurait 49% de testostérone se retrouverait tout en haut de sa catégorie. Donc il pourrait faire des choses pour faire en sorte d'avoir un peu moins de testostérone et de se retrouver plus haut dans sa catégorie et ça créerait des inégalités plus grandes. Et la testostérone, c'est pas que ça qui définit la masse musculaire, donc c'est pas forcément la meilleure solution, je pense.
Je suis d'accord, mais après, faut aussi faire avec le poids. Parce que, ok, tu peux avoir beaucoup de testostérone, mais t'as pas forcément développé tes muscles. En fait, faut faire avec le poids et la testostérone.
Et puis même la taille aussi.
Dans ce cas-là, ce serait faire des nouvelles catégories. Et là, on s'éloigne un peu du sujet de est-ce que les personnes transgenres devraient concourir dans cette catégorie ou cette catégorie. En plus, je trouve que faire des catégories sur les masses musculaires, ça ferait perdre le sens de l'entraînement pour avoir une meilleure masse musculaire. Donc si tu mettrais toutes les personnes avec la même masse musculaire, ça enlèverait le
après,
sens
en boxe,
de l'entraînement.
Mais après, poids plume, poids lourd, etc. Hein.
Bah oui, voilà, mais ça, c'est les poids, c'est différent.
Pour moi, finalement, le principe le plus important, c'est l'égalité. Tout le monde doit être au même niveau, à la même difficulté, pour que tout le monde puisse autant réussir les uns que les autres.
C'est pas tout à fait l'égalité, parce que si tu prends deux personnes de la même masse musculaire, est-ce qu'elles ont fourni le même nombre d'efforts, le même nombre d'entraînements ? Pas forcément, et ça voudrait dire que quelqu'un qui aurait fourni beaucoup d'efforts et qui aurait atteint ce stade, et quelqu'un qui aurait pas fourni tellement d'efforts et qui se serait retrouvé contre cette même personne, c'est injuste, parce que ça voudrait dire que, au final, tu fais ça pour rien.
Mais faut pas mettre exactement les mêmes personnes, même physique et tout.
Mais on peut pas mesurer l'entraînement.
Il faut mélanger.
Et du coup, faut un peu de difficulté. Enfin.
Mais là, c'est mesurer des choses qu'on ne peut pas mesurer. Mesurer des valeurs qui ne se mesurent pas.
Bah, de toute façon, nous, on est des enfants, donc on en discute, on peut essayer d'en parler, on peut essayer de trouver des solutions. Ça va pas changer du jour au lendemain. Et quoi qu'il en soit, on n'aura jamais tout le monde qui sera d'accord et tout le monde qui sera pas d'accord. Il y aura toujours un peu des deux.
Il n'y a pas de solution parfaite.
Il y aura toujours des gens qui seront pour, toujours des gens qui seront contre, toujours des gens au milieu qui se seront convaincus par certaines choses.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas
faire avancer les choses. Est-ce que parmi tout le monde, parce qu'à la base, à part Théo, on était tous neutres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de prendre un avis ?
Bah, moi, je pense qu'ils devraient, pour l'égalité, ils devraient concourir dans leur genre de transition. Pour eux, ce ne serait pas très gentil, quoi. Enfin, c'est comme si un homme qui n'avait pas énormément de muscles, on allait lui dire, bah, du coup, tu vas aller chez les femmes parce que bah, t'as pas de muscles et on va te mettre avec les moins forts. Enfin, ce serait pas très gentil.
Vous avez tous des arguments hyper intéressants. C'est un sujet très difficile que même le monde entier n'a pas la réponse. Donc nous, petits élèves du Collège Les Saules, on ne va pas la trouver. Mais ça reste hyper intéressant d'en parler parce que c'est un sujet compliqué, mais on peut tous exposer nos arguments et... J'espère que ça vous a plu et que vous avez aussi gambergé sur tous les sujets difficiles qu'on a approchés. Je remercie toute l'équipe de l'Écho des Saules. Je remercie également Sounia qui nous vient de News FM et donc de News FM également. Donc je remercie personnellement Théo, Léo, Erwan, Lilouen, Lilou, Coralie, Laurine, Gabin, Evan, Elio, Et je remercie également Madame Benaram, notre prof de technologie, et Madame Perrotin, notre professeur documentaliste. Vous êtes tous des personnes incroyables.
Et moi, je voudrais dire un grand merci à Madame Santi qui nous permet de réaliser ce club.
Merci à tous et à bientôt.
À bientôt.
Merci.
Salut.